Nous allons tourner avec moi dans notre passage principal qui se trouve dans Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. On va lire les versets 20 à 23. Proverbes 6 à partir du verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Bon, j'aimerais qu'on parle ce matin, c'est quand même la fête des pères, et que l'un des rôles qu'on a en tant que papa, c'est on doit être des influenceurs. Et je ne parle pas de ce qu'on appelle des influenceurs d'aujourd'hui, hein, ces personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour influencer la pensée des gens parce qu'ils ont un grand nombre de personnes qui sont abonnées à leur chaîne. Je ne parle pas de ça. Moi, j'utilise le terme. Mais je parle de l'influence que nous avons quand même, qui est une influence indéniable. On en a parlé tout à l'heure dans les témoignages que peu importe si c'était un père chrétien ou non, l'influence a été là. Personne ne peut dire, absolument personne ne peut dire, j'ai eu un père, il a eu zéro influence sur moi. C'est impossible. Et que les parents soient une bonne influence ou que les parents soient une mauvaise influence ne dépend pas de l'enfant, vous savez. Ça dépend entièrement du père et de la mère. Ça ne veut pas dire que parce que les parents était une bonne influence, qu'automatiquement que leurs enfants feront ce qui est bien. Tout comme on a une multitude d'exemples de personnes qui avaient de très mauvais parents, de très mauvais pères, mais qui sont devenus des adultes responsables, respectueux, et même qui ont appris à aimer le Seigneur. Alors qu'ils avaient un père peut-être alcoolique, qui abusif, qui frappait, etc. Nous avons ici notre passage des paroles de Salomon, un homme qui a été béni de Dieu, qui lui a donné une sagesse comme nul autre n'a jamais eu. Mais la raison principale de pourquoi les paroles que nous avons lues en Proverbes sont si importantes, ce n'est pas parce que c'est Salomon qui les a écrites, mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Salomon à écrire ces paroles pour qu'elles deviennent partie intégrante de ce que nous appelons, pas la parole de Salomon, mais la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ces paroles sont importantes. Rien que dans ces quatre petits versets qu'on a lus, il y a beaucoup, beaucoup trop de richesses pour pouvoir tout voir ce matin. C'est impossible. Mais on va prendre quand même le temps de voir juste quelques vérités essentielles, même si, pour ma part, on ne fait que gratter la surface de ce qu'on pourrait voir, de ce que Dieu voudrait nous enseigner à travers ces quatre versets, pour nous aider à être de meilleurs pères, de meilleurs parents, pour avoir une influence sur nos enfants qui leur soit bénéfique. Si nous voulons que nos enfants grandissent dans la sainteté, dans la pureté, loin du péché, je pense que ça devrait être normal pour n'importe quel parent de vouloir cela pour ses enfants. Ben, la première chose qu'il faut que nous comprenions, c'est que nous devons déjà montrer l'exemple. Il dit, verset 20, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront selon ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » Quand il s'agit de la relation entre un père et son enfant, on sait que ça ne suffit pas juste d'enseigner les vérités telles qu'elles sont. L'instruction suivie par l'hypocrisie enseignera quelque chose de complètement contraire de ce qu'on aurait voulu enseigner. Comme on l'a souvent dit, fais comme je dis et pas comme je fais, il va faire comme tu fais. Il est normal que le père veuille instruire son enfant. Il est normal pour un père de vouloir aider son enfant à comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est dangereux, etc., ce qui rend les choses plus faciles, ce qui rend les choses plus difficiles. Mais que croyez-vous que l'enfant va vraiment retenir et donc apprendre quand le père lui dit « l'alcool est mauvais » tout en voyant son père ivre juste de temps en temps? Ou quand il entend son père dire qu'il faut faire confiance en Dieu pour le voir ensuite vivre une vie qui est plus remplie de crainte que d'avoir une foi ferme et inébranlable. ou quand il entend ses parents dire que Dieu pardonne, mais pas moi, en tout cas pas cette personne-là pour cette chose-là. Ou de pouvoir dire, c'est important de lire ta Bible, mais il ne le voit jamais faire. Ou de dire, les grossièretés sont mauvaises, et puis on le voit en train de parler, il entend parler quand... Oh, mais c'est seulement quand je me mets en colère que je dis ces choses. Ben, que croyez-vous que l'enfant va apprendre? Si nous voulons réellement avoir une influence positive dans la vie de nos enfants, on ne doit pas simplement les instruire dans les vérités que nous trouvons importantes, mais nous devons suivre ces vérités par un exemple dans notre propre vie. Une vie qui met en pratique ces mêmes vérités. Pour moi, je vois dans la première phrase du verset 20, l'expérience du Père. Et donc, quand il dit « Mon fils, garde les préceptes de ton Père », il est en train de parler de quelque chose que le Père est déjà en train de mettre en pratique lui-même, qu'il est en train d'enseigner. Le mot « garde » ici, c'est un mot qu'on a déjà vu dans le passé, dans d'autres passages, c'est exactement le même mot, c'est le mot « natsar » en hébreu, qui est un mot utilisé pour les soldats dans l'armée quand on leur donne l'ordre de tenir garde devant un entrepôt, à l'entrée du camp, peu importe. Et ce mot donne donc l'instruction qu'on doit garder, qu'on doit préserver, ou si vous préférez, même défendre et protéger ce que nous avons, l'ordre qu'on nous a donné de garder. Ici, ce sont les préceptes du Père. Et ce mot précepte peut également être traduit par les commandements. Donc, un commandement, c'est un enseignement reçu qui dise à l'enfant ce qu'il doit et ne doit pas faire. C'est ça un commandement. Il dit, toi, en tant qu'enfant, tu dois les garder, tu dois les protéger, tu dois même les défendre. De garder les préceptes va donc bien plus loin que de simplement comprendre ce que le Père dit. Ça veut même aller bien plus loin que de simplement dire qu'on est d'accord. Oui, ça c'est une mauvaise chose. Mais c'est de vouloir lui-même le faire aussi, de les mettre en pratique. Qu'est-ce qui motivera l'enfant à garder les commandements qu'il reçoit de son père? N'est-ce pas en voyant le père lui-même mettre ces mêmes commandements en pratique dans sa propre vie? Quand il lui dit, il veut enseigner l'enfant qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, ne doit-il pas automatiquement voir son père avoir cet amour pour Dieu dans sa vie aussi? Avant de vouloir espérer que son enfant le fasse dans la sienne. Et cela, tout le temps, et pas juste quand c'est facile, quand les circonstances sont propices. Mais peu importe ce par quoi le père passe, l'enfant peut voir son père aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Si le père veut enseigner l'importance d'être honnête, ou de mettre la volonté de Dieu en premier, et de placer son enfant en lui ou toute chose, ou s'il veut enseigner l'enfant d'aimer son prochain, est-ce que ça veut dire? Ou s'il veut enseigner à son enfant qu'il faut volontairement accepter de se rendre serviteur des autres pour la gloire de Dieu, ben il va de soi que l'enseignement apporté aura une plus grande efficace à travers ce que le Père fait qu'à travers ce qu'il dit. Mais ses paroles auront également beaucoup plus de puissance et beaucoup plus d'influence si la vie du Père vient appuyer et confirmer ce qu'il enseigne, les commandements qu'il donne. Et ce n'est pas qu'il est en train de dire « Fais ceci parce que moi je le fais déjà ». Il n'a pas besoin de dire cela. « Fais ceci parce que c'est ce qui plaît à Dieu ». Et l'enfant automatiquement va comparer ses paroles avec sa vie. Est-ce qu'il le fait lui? Lui, il veut que je le fasse. Lui, mais est-ce que lui, il le fait? Et s'il le voit faire, s'il voit avoir son père, avoir cette joie de se rendre serviteur pour la gloire de Dieu, s'il voit ce désir d'être honnête parce que ça fait plaisir à Dieu, s'il voit ce désir de rester éloigné du péché, etc., alors quand le père l'enseigne, il dit, d'accord, je vois. Il a déjà le père en train de donner une influence positive. Que l'enfant le suive ou non, ça c'est une autre histoire. Là, on est en train de parler de la responsabilité du père. De ne pas juste enseigner, mais de le suivre avec son exemple. La responsabilité du père est celui de donner et de vivre les préceptes et les commandements. La responsabilité de l'enfant, il nous l'a dit, c'est de les garder, de les protéger, et non de les ignorer, et non de les oublier. Un soldat qui quitte son poste sera toujours jugé coupable de ne pas être resté pour garder l'entrepôt ou l'entrée du camp. Oui, mais t'as pas vu l'armée qui me fonçait dessus? Ben, ton rôle, l'ordre qui t'est donné, ne quitte pas ton poste. Garde cet entrepôt. Un soldat qui quitte son poste, c'est un déserteur. L'enfant qui quitte les préceptes enseignés sera tout aussi coupable de ne pas avoir gardé les préceptes de son père, surtout quand ses enseignements sont conformes avec la volonté de Dieu, sans exception. Notre passage ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il dit la responsabilité d'un enfant ne tombe pas sur les épaules du père seul. La phrase qui suit tout de suite après nous parle de l'influence de la mère dans la vie de l'enfant. Le père et la mère doivent travailler ensemble pour le bien de l'enfant. Ce n'est pas l'un contre l'autre, ce n'est pas un qui enseigne une chose et l'autre qui enseigne une chose différente, c'est les deux ensemble avec le même but, le même objectif, avec la même dépendance en Dieu de les utiliser pour aider l'enfant à grandir dans le Seigneur. Je vois ici moi l'affection de la mère. Il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ce mot « rejette » ici dans l'original peut être traduit par « frapper » dans le but de disperser. Vous voyez un peu l'image? Tu me donnes cet enseignement, je ne l'aime pas, je frappe cet enseignement jusqu'à ce qu'elle disperse. C'est ce que ce mot « rejeter » veut littéralement dire si on le prenait au mot. L'autre façon de traduire ce mot, c'est « jeter au loin »,« laisser tomber à terre » ou « renier ». Ne renie pas, ne rejette pas, ne laisse pas tomber les enseignements reçus de ta mère. Mais encore une fois, que vaut les enseignements d'une mère qui ne met pas en pratique elle-même ce qu'elle enseigne, n'est-ce pas? On voit ici chez l'enfant un acte délibéré. Quand il dit « ne rejette pas l'enseignement de ta mère », il ne parle pas du fait que « je ne l'ai pas compris, alors je ne cherche pas à comprendre » ou « je ne suis pas d'accord ». Donc c'est un acte délibéré, c'est un choix personnel. « Je ne veux pas, je refuse de suivre l'enseignement que j'ai reçu de ma mère ». Je trouve intéressant qu'il donne des consignes de la façon qu'un enfant doit accepter les commandements de son père, mais aussi les enseignements de la mère. Il ne dissocie pas les deux. Et si vous êtes un père ou une mère qui aime le Seigneur et que Dieu vous a béni avec un ou des enfants, vous avez une influence incroyable sur la vie de vos enfants. Rien que dans la façon qu'ils peuvent vous voir vivre votre foi, votre vie chrétienne. Tous nos enseignements, tous les commandements qu'on donne n'auront de la valeur que si elles sont suivies par un exemple qui suit ces mêmes valeurs. S'ils peuvent vous entendre prier, pas juste prier à table avant de manger, mais de vous entendre spécifiquement prier pour eux, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu vous aide à avoir la patience pour ce qui vous mène à vous, ou de vous entendre prier, « Seigneur, aide-moi à être le père et la mère » qui aident mes enfants à s'approcher de Dieu, ne croyez-vous pas que ça va avoir une influence dans leur vie? Je ne parle pas du fait qu'on doit faire tout un spectacle de notre temps de communion personnelle avec Dieu. On ne doit pas faire exprès de se faire voir. On ne demande pas d'attendre qu'ils se réveillent. On les entend qu'ils s'approchent du salon où on se trouve. Ah ben tiens, ils s'approchent. J'ouvre vite fait ma Bible, je fais semblant de prier. Je ne parle pas de ça. Mais si on est déjà en train de prier ou déjà en train de lire, qu'on n'arrête pas, juste parce qu'ils sont maintenant dans la pièce, parce qu'ils sont debout. On termine notre temps de prière, on termine notre temps de lecture. Je ne voyais pas ma mère prier ou lire tous les jours. Mais je la voyais assez suffisamment pour savoir qu'elle le faisait tous les jours. Ça a influencé ma vie. Ma mère, que j'estimais, et surtout en tant que petit enfant, j'étais, je ne sais plus comment on dit en français.
Dans les jupes.
Voilà, c'était ma maman, c'était sur un piédestal. Mais alors que je la vois, elle est dépendante de Dieu. Elle passait du temps dans la prière et dans la lecture parce qu'elle avait besoin de Dieu. Et si ma mère, que j'élevais au-dessus des autres, avait besoin de Dieu, combien plus, autant moins, est-ce que j'en ai besoin? Je me rappelle avoir ces pensées en tant qu'enfant. Mais est-ce que j'aurais eu ces pensées si ma mère avait toujours son temps de lecture, de prière en cachette, ou que je ne la voyais jamais. Ah, Philippe est debout, j'arrête avant qu'il, pour que je lui donne toute mon attention. Vous savez, je n'avais pas besoin que ma mère arrête son temps de lecture et de prière pour savoir qu'elle m'aimait, pour savoir qu'elle allait me donner son attention, pour savoir que je suis important pour elle. C'est justement parce qu'elle passait ce temps dans la prière et dans la lecture pour demander l'aide de Dieu qui me montrait que j'étais important pour elle, parce qu'elle voulait être la meilleure mère envers moi que possible. Avoir une mère qui m'enseigne les vérités bibliques, c'est déjà quelque chose de merveilleux, c'est une grande bénédiction. Mais de pouvoir voir chez elle, qu'est-ce que c'est que la foi? Quelle différence? Quelle influence dans ma vie? De pouvoir voir sa patience alors que je sais que c'est moi qui est en train de la mener à bout, avec mes idioties et autres, de voir qu'elle est patiente envers moi, à cause de l'amour qu'elle a pour Dieu et pour moi. La manière que je peux voir la maîtrise de soi qu'elle a, alors que moi et mon frère, on était bêtes et hors de contrôle, dans ce qu'on disait, dans ce qu'on faisait. Mais notre mère nous a donné un enseignement qu'on ne comprendra peut-être que plus tard, sur ce qu'était vraiment la grâce et la miséricorde. Combien de fois est-ce que j'ai appris à ce que c'est que le pardon à travers l'exemple du pardon que mes parents m'ont donné à moi, alors que je leur ai dit des choses blessantes, alors que j'ai eu une attitude blessante envers eux, et que je sais qu'ils m'ont pardonné et que je ne méritais pas d'être pardonné. Quand ils me parlent du pardon que Dieu me donne, j'avais déjà un exemple concret à travers leur exemple. Mais l'accent ici est quand même mis sur l'enfant, encore une fois. Il n'est pas en train de parler aux parents. Il dit, mon fils, garde les préceptes. Ne rejette pas l'enseignement. Un peu comme les commandements reçus du père et les enseignements reçus de la mère. C'est sous-entendu que c'est automatique, que ça va se faire, que c'est fait. Mais par contre, ce que l'enfant va faire avec n'est pas pris pour acquis. Il lui donne cet encouragement. Garde-le, protège-le, ne le rejette pas, ne fais pas le choix de le renier. L'accent est mis sur l'enfant qui se doit de faire ces choses. Parce que le tout, ce n'est pas parce que ce sont les commandements du père ou les enseignements de la mère qui les rendent tant de valeur. C'est parce que ces commandements et ces enseignements viennent de la parole de Dieu. Voyez, verset 21 dit « Lis-les constamment sur ton cœur et attache-les à ton cou. » La raison que l'enfant doit accepter et faire cet effort de garder, de ne pas rejeter les enseignements, c'est parce que si les parents ont obéi et rempli leur responsabilité de donner les commandements, de donner les enseignements qui sont conformes à la parole de Dieu, et donc la volonté de Dieu, que ces commandements ont de la valeur, ils ne doivent pas être négligés. Ce n'est pas que les parents sont parfaits, ce n'est pas que les parents ne se trompent jamais, c'est que les enseignements, si elles viennent de la parole de Dieu, elles sont parfaites. Elles ne doivent pas être ignorées. Elles sont dignes de confiance. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. On comprend bien ce que ce mot « lier » veut dire, n'est-ce pas? De prendre deux choses qui sont séparées, de les attacher ensemble pour qu'elles ne soient plus séparées. C'est ce que ce mot « lier » veut dire. C'est attacher ensemble. Et cela, peu importe les forces extérieures qui voudraient les tirer dans un sens ou dans un autre, rien ne pourra plus les séparer parce qu'ils sont liés ensemble. Lis-les constamment à ton cœur. Lis les enseignements bibliques reçus des parents sur ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit qui influence nos émotions. Pour que la vérité de la parole de Dieu soit plus forte que nos émotions. Même quand les émotions de la crainte, de la peur d'un avenir incertain, par exemple, ou les émotions de la colère, ou parce qu'on est déçu, voudraient tirer dans un sens ou dans un autre, votre cœur reste lié aux vérités de la parole de Dieu, qui vous ont été enseignées et mises en exemple par vos parents, pour que les vérités de la parole de Dieu soient plus fortes que vos émotions. Vous avez remarqué qu'il dit, lis-les constamment, n'est-ce pas? Constamment. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Quand on fait un nœud avec une corde pour lier deux choses ensemble, quand une force extérieure essaye de les séparer, qu'est-ce qui va arriver à la corde? Elle va commencer à se défaire un peu, n'est-ce pas? Il est normal de revenir et de resserrer le tout ensemble pour que ça revienne bien serré. Et quand on essaye de tirer les deux choses d'un sens ou dans l'autre, oui, si on continue à laisser faire, ça va se défaire, desserrer, et puis les deux choses sont même plus ensemble. Il y a encore la corde autour, mais ça se frotte et il ne faudra pas grand-chose pour que ça quitte. Donc il dit, lis-les une première fois, et à chaque fois qu'il y a ces émotions, ces circonstances et autres choses qui voudraient tirer tes émotions et tes cœurs dans un sens différent de la vérité biblique, resserre-les pour qu'ils reviennent ensemble et qu'ils soient comme un. Lis-les constamment sur ton cœur. C'est un peu comme le psaume 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce mot serre, ici, veut dire de cacher dans le but de protéger ta parole. Ce sont les parents, le père et la mère ensemble vont instruire leurs enfants les vérités de la parole de Dieu. Par leur bouche, oui, mais surtout par leur exemple. Ensuite, c'est à l'enfant de vouloir continuer à vivre selon les vérités de la parole et la volonté de Dieu. Mais vous avez également remarqué, dans ce verset 21, il dit, lis la parole à notre cœur, mais de les attacher à notre cou. Je ne sais pas pour vous, moi, ça me fait penser à un collier qu'on porte, n'est-ce pas, autour du cou. Pas un collier comme portaient les prisonniers à l'époque, mais un collier à laquelle est attaché peut-être un pendentif, une pierre précieuse qu'on porte avec fierté. Une femme va porter un tel collier parce que le collier va la rendre belle et elle veut que le collier soit vu. Mais de la même façon, nous devons garder attachés sur notre cœur les vérités de la parole de Dieu parce qu'elles nous sont précieuses et nous ne devons pas avoir peur de vivre de façon à ce que ces mêmes vérités soient visibles dans notre vie. On n'en a pas honte. Si vous êtes un homme et vous n'aimez pas la notion de porter un collier, alors pensez alors de porter les vérités de Dieu comme un athlète porte sa médaille d'or autour du cou. Il porte cette médaille d'or avec fierté pour que ça soit vu. La grande différence que nous, on sera rapide à dire, je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité ce salut. Je n'ai pas mérité la faveur de l'Éternel. Je n'ai pas mérité son amour. Mais laissez-moi vous dire pourquoi Dieu me les a donnés quand même. J'aimerais rester sur ce sujet, mais il faut qu'on en revienne quand même à notre texte. Si nous voulons que nos enfants grandissent dans la sainteté, dans la pureté et loin du péché, il faut absolument que ça commence par notre exemple. Si je veux que mes enfants lient constamment la parole de Dieu sur leur cœur, qu'ils attachent la parole autour du cou, qu'ils en soient fiers et qu'ils n'aient pas honte de dire que ce sont des enfants de Dieu, il faut que ça commence avec mon exemple. On ne peut pas en être autrement. Mon exemple en tant que père, mon exemple en tant que mari, mon exemple en tant qu'enfant de Dieu. Ils vont voir pourquoi et comment je lis ma Bible. Ils vont voir pourquoi et comment je prie. Ils vont voir comment et pourquoi je viens à l'église. Et tout cela va apporter leur influence. Mes enfants peuvent voir si ces trois choses sont importantes pour moi en voyant ce qu'il faut pour m'empêcher de les faire. Est-ce qu'il en faut peu pour que je rate l'église? Est-ce qu'il en faut peu pour que je choisisse de ne pas lire la Bible ce jour-là ou de ne pas prier? S'il ne faut pas grand-chose pour que je dise que je n'ai pas le temps, il ne faut pas m'étonner que mes enfants aillent encore plus loin que cela et disent « j'ai jamais le temps ». Soyons donc des influenceurs qui aident nos enfants en montrant l'exemple que Dieu mérite qu'on le mette lui réellement en premier en toutes choses, tous les jours, sans exception. Et la deuxième chose, et ce sera également la dernière, c'est qu'on doit laisser la parole faire son effet. Une chose qui est difficile pour beaucoup de papas, c'est dans notre, j'ai envie de dire, c'est dans notre être d'être d'homme, de vouloir, c'est pas corriger, de pouvoir réparer tout ce qui va pas, les choses cassées, en tant qu'homme, en tant que père, il faut que je le répare. Et quand on voit nos enfants avoir du mal, être dans un mauvais chemin, et aller dans une mauvaise direction, et faire les mauvais choix, il est très difficile pour un père de ne pas vouloir sauter sur l'occasion et dire « il faut que je répare ça avant qu'il ne se détruise entièrement ». Et on doit intervenir. On doit dire la vérité en montrant la vérité avec amour, mais notre espérance, notre vraie foi, notre vraie confiance, ce n'est pas dans notre pouvoir de persuasion, ce n'est pas dans la puissance de l'autorité que nous avons en tant que Père, mais c'est dans l'efficacité de la parole de Dieu et de son esprit. Le verset 23 de notre passage, déjà le verset 22 aussi, hein, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sous ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Alors, vous aurez remarqué que ce verset 23 reprend les deux mêmes mots utilisés pour le père et la mère. Il dit, garde les préceptes du père, et ensuite il dit, car le précepte est une lampe. Et ensuite il dit, ne rejette pas l'enseignement de la mère, les enseignements est une lumière. L'enseignement est une lumière. Une lampe avec une lumière, les deux ensemble, nous éclaire, nous montre le chemin, nous aide à apprendre. Une lampe est faite pour contenir une lumière, n'est-ce pas? Elle est faite pour avoir une lumière qui puisse bouger avec nous pour que la lumière qu'elle renferme puisse nous éclairer là où nous marchons. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour vivre une vie heureuse, une vie épanouie, se trouve dans la Bible et nulle part ailleurs. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses utiles en dehors de la Bible. Les maths, etc. sont utiles. Mais peu importe leur utilité, sans Dieu, ils ne produiront jamais la joie et la paix que Dieu offre à ses enfants. Vous connaissez aussi bien que moi le passage dans Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est une lampe. Elle n'est pas, on va dire, une lumière. Elle contient la lumière. Le fait d'avoir la Bible, elle ne va pas m'éclairer tant que je ne l'ouvre pas et que je ne la lise pas. Elle contient la lumière. Les vérités de Dieu s'y trouvent à l'intérieur. Et en ouvrant la parole, en lisant et en acceptant les vérités qui s'y trouvent, là, Dieu peut m'éclairer, Dieu peut me guider et Dieu peut m'instruire. Il est inutile que j'essaye de trouver de la lumière ailleurs que dans la parole. Et inutile que je pense que juste le fait que j'ai la Bible chez moi me suffise pour m'éclairer non plus. Si on choisit de laisser notre lampe éteinte ou de la sortir seulement une fois qu'on se sent perdu, ce n'est pas la faute de la lampe. Et ce n'est pas la faute des parents qui nous ont appris à aimer, à croire, à respecter la parole de Dieu. C'est notre faute. Il nous dit dans ce passage, verset 22, « Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » Vous voulez que vos enfants puissent grandir en faisant confiance en Dieu? J'imagine que oui. Vous voulez qu'ils grandissent en ayant l'habitude de lire la parole, de croire dans la personne même de Dieu et donc dans ses promesses, dans absolument toutes les situations de la vie? Alors n'est-il pas normal que ça commence d'abord avec notre exemple, la manière qu'ils peuvent voir l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Une parole qu'on reçoit, qu'on ne renie pas, qu'on ne rejette pas, qu'on ne remet pas en doute, auquel on laisse la parole nous changer pour être conforme à la volonté de Dieu. Et non essayer de tout faire pour rendre la parole de Dieu conforme à ma vérité ou à ma façon de voir les choses. Un père qui enseigne les préceptes de Dieu, qui met en pratique les préceptes de Dieu dans sa vie, suivi d'une mère qui enseigne les vérités de la parole de Dieu, les mettant en pratique dans sa vie, comment est-ce que cela ne va pas avoir une influence positive, bénéfique pour l'enfant? Mais il faut que ça commence avec des parents qui montrent que la parole de Dieu est comme elle le dit, elle est vivante et efficace. Pas seulement de temps en temps, pas seulement quand tout va bien, mais en tout temps. Que l'enfant ne soit pas seulement enseigné qu'il faut se réjouir en tout temps, mais qu'il puisse voir leurs parents garder la joie malgré les difficultés. Je ne dis pas de se réjouir des difficultés, mais ne pas être abattu par les difficultés non plus. Ils gardent la joie de savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, par exemple. Que l'enfant ne soit pas seulement enseigné en parole seulement sur le fait d'aimer son ennemi, mais qu'il voit cet amour se manifester chez ses parents, qu'il puisse dire « Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu mes parents avoir de la haine envers qui que ce soit. Ils étaient toujours prêts à pardonner. » Que l'enfant n'entende pas seulement parler de la grâce et de la miséricorde s'ils ne peuvent pas voir ces mêmes qualités mises en pratique dans la vie de leurs parents. Les préceptes, il dit, Les préceptes ne sont pas les préceptes du Père, elles sont une lampe donnée par Dieu. Les enseignements ne sont pas les idées de la mère, ce sont les enseignements que la mère reçoit de la parole de Dieu, qu'elle explique à l'enfant. Une vérité peut rester cachée ou incomprise tant qu'elle n'est pas expliquée, d'où le mot « enseigner ». Tout professeur vous dira que l'enseignement n'est pas de simplement dicter une vérité. L'enseignement réside à pouvoir expliquer cette vérité et le mettre au niveau de la personne qu'il est en train d'enseigner pour que cette personne puisse la comprendre. Tant que la personne ne l'a pas comprise, elle n'a pas été enseignée encore. Et c'est le rôle du professeur d'arriver à faire comprendre cette chose à son étudiant. Il dit à partir de ce moment-là, oui, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Est-ce là votre façon de vivre, votre vie chrétienne? Est-ce là votre façon de vivre jour après jour, chaque jour? Je veux que Dieu me parle à mon réveil. Qu'il me dirige ma marche. Comment diriger ma marche si je n'ouvre pas? Si je garde ma lampe éteinte et que je n'y trouve pas les lumières qui s'y trouvent? Je veux que Dieu me parle à mon réveil, qu'il me garde pendant ma marche, mais également pendant la journée. Et je veux qu'il me remplisse de sa paix pour que je puisse me soir, me coucher en paix, chaque jour, chaque matin, chaque soir. Vous savez, la Bible est un livre extraordinaire. Dieu nous a donné sa parole qui reste d'actualité malgré les années qui passent, malgré la différence dans toutes les cultures, malgré les différences dans notre propre expérience personnelle. La Bible reste un livre extrêmement communicatif. Parce que c'est une parole vivante. Dieu continue à nous parler à travers son livre aujourd'hui. Mais elle ne va pas nous parler si on la garde fermée. Ou si on l'ouvre et on garde un cœur fermé. Dieu utilise sa parole si seulement nous voulons bien l'écouter avec un cœur humble. De réaliser la parole de Dieu est plus importante que mes pensées, que mes idées. Que Dieu est parfait, ses pensées sont parfaites, sa volonté est parfaite. Et il veut toujours le bien de tous. Mais que nous avons un choix. Est-ce que je vais garder ses commandements? Est-ce que je vais les prendre, ces enseignements, ou les rejeter? Je ne peux pas compter le nombre de fois que Dieu a utilisé sa parole pour m'encourager. Le nombre de fois qu'il a utilisé des versets spécifiques pour me consoler. Combien de fois il a utilisé un ou des passages également pour me reprendre. Dit Philippe, il faut que tu arrêtes. Tu viens de dire quelque chose qui t'a remis en évidence, quelque chose que tu dois confesser. Quelque chose que tu as fait, que tu n'aurais pas dû, etc. Combien de fois également j'ai raté ce que Dieu avait pour moi, ou que j'aurais raté si j'avais refusé d'ouvrir sa parole pour l'excuse de « j'ai pas le temps » ou « mes enfants ont besoin de moi » ou je ne sais quoi d'autre. Et j'ai raté, aussi bien dans mon témoignage envers mes enfants, que dans ce que le Seigneur voulait me donner ce jour-là, qu'il savait que j'avais besoin. Et j'ai passé toute cette journée avec quelque chose qui me manquait, que Dieu voulait me donner, que j'avais besoin. Si je veux réellement préparer mes enfants à faire face à la vie d'adulte, je me dois de les enseigner à garder et à protéger et à voir comme étant précieux les commandements de Dieu. Je ne peux pas en être autrement. Le monde ne peut pas apporter le moindre problème auquel Dieu n'a pas une réponse. Le monde voudra apporter son lot de craintes, son lot de peurs, mais Dieu peut et veut remplacer toutes ces craintes, pas juste par sévérité, mais avec sa paix. Combien de fois avons-nous entendu des témoignages de chrétiens qui étaient sur leur lit de mort avec... Ils ont pu garder un sourire sur leur visage et dans leur cœur. Et souvent, ils disaient des paroles telles que « Je suis en paix. Je sais en qui j'ai cru et je sais où je vais. » Combien de fois est-ce qu'on a vu et entendu ce genre de témoignages dans la vie de chrétien? Pour le monde, il n'y a pas de plus grande crainte que la mort. Pour le chrétien qui a su attacher et serrer les commandements de Dieu sur leur cœur, et de les porter autour du cou, la mort n'est qu'un passage. Elle n'apporte pas la crainte, mais la joie de ce qui vient après. Alors, il est vrai que c'est, même ici, dans ce petit groupe, certains d'entre vous avaient été élevés dans une famille non chrétienne. Même si vous aviez ce que le monde considère de bons parents, vous n'avez pas eu la bénédiction d'avoir un exemple parental d'un père ou d'une mère qui aime le Seigneur, qui vous a enseigné par leur exemple ce que ça veut dire que d'aimer Dieu de tout son cœur. D'autres ici ont eu ce privilège et cette bénédiction, même s'ils ne réalisent pas toujours selon l'âge qu'ils ont, à quel point c'est un privilège et une bénédiction. Mais nous ne sommes pas en train de regarder dans le passé ou chez les autres. Nous regardons à nos responsabilités d'aujourd'hui. On ne peut pas refaire le passé, n'est-ce pas? La responsabilité d'aujourd'hui, c'est, parents, vous devez enseigner les commandements, les préceptes, et vous devez les mettre en pratique vous-même dans votre vie. Enfants, vous devez les garder, vous devez les protéger. Vous ne devez pas les rejeter, vous ne devez pas les renier. Alors oui, la fête des pères, on veut honorer les papas aujourd'hui, mais nous qui avons la joie d'être un père, nous devons également être rappelés que nous avons une immense responsabilité d'être cet exemple à notre famille. Nous devons instruire, nous devons protéger, nous devons pourvoir, nous devons corriger, nous devons aimer. Toutes des choses qui font partie intégrale des responsabilités d'un père. Mais n'oublions jamais que notre plus grande influence viendra souvent sans qu'on ne dise un seul mot. Ce sera dans ce que nos enfants voient dans notre vie. Quand ils voient la paix qui traverse notre cœur, quand ils voient la joie au milieu des difficultés, quand ils voient la patience que Dieu nous donne, quand ils voient combien il nous est plus facile de montrer de la compassion, de la miséricorde, combien, sans même dire un mot, ils peuvent voir la réalité de la présence de Dieu en nous. Quand nos enfants nous voient sereins et pleins de confiance, quand ils nous voient mettre en pratique ce qu'on leur avait dit il y a juste quelques jours avant, quand ils nous voient avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé ou autre chose alors que ce n'est pas facile, quand ils nous voient tenir ferme et montrer du courage pour répondre avec assurance mais également avec respect et amour, quand ils nous voient montrer l'amour alors qu'ils réalisent qu'eux-mêmes ne méritent pas qu'on leur donne cet amour, de leur dire pas maintenant, j'ai besoin de terminer mon moment de communion avec Dieu, c'est un témoignage. Ils savent qu'on les aime, ils savent qu'on va leur donner notre attention, mais ils voient également que notre temps personnel avec Dieu est primordial. Et si c'est primordial pour nous, ça va avoir cette influence que ça devrait être primordial pour eux aussi. Si ça ne l'est pas pour nous, il est inutile qu'on pense que ça sera primordial pour eux. Soyons des influenceurs, non comme ceux de ce monde, mais aidons nos enfants et notre famille entière à rediriger les regards et les cœurs sur la personne de Dieu. Laissez-moi terminer avec la lecture d'un passage juste deux chapitres avant, en Proverbe chapitre 4, et on terminera avec cette lecture. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Et on pourrait continuer, mais on va terminer avec le verset 23 qui relie ce qu'on avait vu également dans le chapitre 6. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quelle est la meilleure façon de garder notre cœur? On l'a vu en Proverbe 6. Lis-les constamment. Lis-les à ton cœur. et attache-les à ton cou. Serre-les bien fort, et quand ça se défait un peu, reviens et resserre-les. Garde ton cœur plus que toute autre chose, verset 23. Alors, prions et demandons à ce que le Seigneur puisse bénir sa parole et nous aider, pour nous qui sommes papas, à être de bons pères, nous qui sommes enfants, à nous préparer à être de bons pères, si tel Dieu le désire. Prions.